Philippe Laurence et Emmanuel Macron qui clôturera le congrès aujourd'hui avec un discours. 9h10 ici à Paris. Restez avec nous dans un tout petit instant. Vous retrouvez Juan Gomez.
Radio G 101.5 FM.
Qui parle.
Ça va bien et toi?
Eh ben toujours très heureuse de vous retrouver pour notre émission Tout compte fait.
Eh ben oui, également. Alors aujourd'hui, nous allons partir au pays du soleil levant.
Waouh.
Ouais. Donc on vous a trouvé des contes japonais. Qu'est-ce que tu as trouvé comme conte japonais, Flora?
Moi j'ai trouvé un conte qui s'appelle La danse des chats. Et toi?
Alors moi, ça sera Taro et le bambou magique. Et puis après, une petite histoire un peu rigolote, très courte, qui s'appelle Rencontre au sommet. C'est issu d'un recueil de petits contes de grenouilles fait par Muriel Bloch. C'est assez savoureux, donc voilà.
Et qu'est-ce qu'on va se mettre comme petite musique avec tout ça?
J'en ai trouvé quelques-unes. Ça va être assez varié. C'est pas vraiment des artistes japonais à part un, mais c'est plutôt donc des références au Japon et de ce que peut inspirer en fait la culture japonaise aux artistes internationaux et notamment français.
Bien, j'ai hâte de découvrir.
Et bien voilà, allez, c'est parti. Tout compte fait au Japon, c'est maintenant.
Tout compte fait.
La danse des chats. Il y a de cela bien longtemps, au temps des fées, des géants, des ogres, des dragons, des vaillants chevaliers et des damoiselles en détresse, au temps doré des jours passés, vivait un jeune guerrier qui décida de s'en aller par le vaste monde chercher aventure. Il allait ainsi et il ne rencontrait que choses ordinaires. Mais un jour, alors qu'il avait cheminé dans une épaisse forêt, il se retrouva le soir venu sur le flanc d'une montagne sauvage et désolée. On ne voyait ni village, ni masure, pas même la hutte d'un charbonnier si fréquente aux lisières des forêts. Il avait suivi un sentier quasi effacé et envahi de plantes folles. Mais il avait fini par le perdre. Le crépuscule venant en vain, il tenta de le retrouver. Tous ses efforts ne faisaient que l'égarer plus encore dans les bruyères et les hautes herbes qui poussaient inextricablement de tous côtés. Pâle et fatigué, il trébuchait dans l'obscurité qui n'avait cessé de s'épaissir, quand soudain il déboucha sur un petit temple désert et à demi en ruine, mais qui contenait encore un tombeau. Là, au moins, il pourrait s'abriter de la rosée glaciale et il résolut d'y passer la nuit. Il n'avait aucune provision, mais s'enroulant dans son manteau, sa bonne épée à sa portée, il s'étendit et bientôt sombra dans le sommeil. À minuit, un bruit horrible l'éveilla. Il crut d'abord à un rêve, mais le bruit persistait et bientôt tout le lieu résonna des plus terribles hurlements qu'on puisse imaginer. Avec précaution, le jeune homme se leva, saisit son épée et regarda par un trou du mur en ruine. Il découvrit un étrange spectacle qui l'effraya. Une troupe de chats hideux se livrait à une danse sauvage, tandis que la nuit retentissait de leurs clameurs. Mêlé à leurs cris, il crut distinguer clairement ces mots. « Ne le disons pas à Chipetaro, gardons le secret. Ne le disons pas à Chipetaro, gardons le secret. » La pleine lune éclairait de toute sa clarté cette curieuse scène qui remplissait le jeune homme de stupeur et d'horreur. Soudain, minuit passé, les chats spectraux disparurent et tout retomba dans le silence. Le reste de la nuit se passa dans le calme et il dormit profondément jusqu'au matin. Quand il s'éveilla, le soleil était déjà haut dans le ciel et il se hâta de quitter l'endroit où il s'était déroulé la danse nocturne. Dans la clairière, lumière matinale, il découvrit bientôt les traces d'un sentier qui la veille au soir était invisible. Il le suivit et se rendit compte avec joie qu'il menait non point à la forêt qu'il avait traversée la veille, mais vers une grande plaine. Là, il vit d'abord une ou deux masures isolées, puis un peu plus loin, tout un village. Pressé par la faim, il se hâtait vers celui-ci lorsqu'il perçut comme une plainte. Une femme gémissait et priait à haute voix. Dès qu'il entendit cette détresse, le jeune guerrier, oubliant sa faim, se précipita vers la première habitation pour s'enquérir des raisons d'une telle tristesse et proposer son aide. Les gens écoutèrent ses questions et, hochant la tête avec chagrin, lui répondirent que tout secours était vain. « Chaque année, dirent-ils, l'esprit de la montagne exige une victime. Ce moment est arrivé et cette nuit il dévorera notre enfant bien-aimé. Voici pourquoi nous pleurons et nous nous lamentons. » Plein d'étonnement, il posa encore quelques questions et les villageois lui avouèrent qu'au coucher du soleil, la jeune fille serait enfermée dans une cage qu'il porterait dans le temple en ruine où il avait lui-même dormi la nuit passée et qu'on l'y abandonnerait. Au matin, elle aurait disparu. Ainsi arriverait-il chaque année, et ainsi en serait-il encore aujourd'hui. À écouter cela, le jeune guerrier sentit grandir en lui le désir d'apporter son soutien à cette pauvre enfant. La mention du temple en ruine réveilla en lui le souvenir de l'aventure qui s'y était déroulée. Il demanda alors si au village on avait déjà entendu le nom de Chipetaro, et si on savait ce que cela désignait. Chipetaro ? Chipetaro est un chien superbe et robuste, lui répondit-on, qui appartient à l'intendant de notre prince. Il vit non loin d'ici et nous le voyons souvent suivre son maître. C'est un bon et fidèle compagnon. Sans plus poser d'autres questions, le jeune homme se dépêcha d'aller trouver le maître de Chipetaro et le pria de lui laisser pour une nuit son chien. Celui-ci refusa d'abord, puis finit par accepter à la seule condition que la bête lui serait ramenée le lendemain même. Tout joyeux, le guerrier repartit avec l'animal. Aussitôt, il se rendit chez les parents de la malheureuse enfant et leur recommanda de la garder dans la maison et d'y attendre avec elle son retour. Puis, il mit Chipetaro dans la cage à la place de la victime. Avec l'aide de quelques jeunes villageois, il l'emporta jusqu'au temple en ruine et l'y déposa. Après avoir refusé de demeurer là un seul instant, ces derniers redescendirent de la montagne en toute hâte, comme si une troupe de démons était là à leur trousse. Le jeune homme, seul avec le chien, s'installa pour attendre ce qui ne devait pas manquer d'arriver. À minuit, quand la lune fut haute et pleine, baignant toute la montagne de sa pâleur, surgirent les chats spectraux. Plus nombreux encore que la veille, cette fois, ils entouraient un énorme chat noir, plus effrayant que tous les autres réunis. Il n'eut point de peine à reconnaître en lui l'esprit de la montagne en personne. Dès que le monstre aperçut la cage, il se mit à danser et à sauter tout autour avec des hurlements de triomphe et d'horrible joie, bientôt suivi par ceux de tous ses compagnons. Quand il eut bien accablé sa victime de ses quolibets et de ses injures, il se précipita sur la porte de la cage. C'est alors qu'il se retrouva face à face avec un adversaire de sa taille. Le brave Chipetaro bondit sur lui, le saisit à la gorge et s'en rendit maître. D'un coup, de sa bonne épée, le jeune guerrier l'étendit mort à ses pieds. Les autres chats, trop stupéfaits pour engager le combat, se tinrent immobiles autour du corps de leur chef. En un rien de temps, le chien et l'homme en firent leur affaire. Ce dernier ramena l'animal à son maître et le remercia longuement. Puis il rassura les parents de la jeune fille en leur disant que celle-ci était libre et tous les habitants avec elle, car leur affirma-t-il, c'était la dernière victime que réclamerait l'esprit de la montagne. Ils pouvaient être sûrs qu'il les laisserait désormais en paix. Tout cela, il le devait à Chipetaro. Et il leur dit enfin adieu et s'en alla en quête de nouvelles aventures.
Tout compte fait.
Thank you. compte fait.
Tout compte, tout compte fait.
Tarot et le bambou magique. Tarot vivait avec ses parents dans un petit village japonais loin dans les montagnes. Tarot, va me chercher une pousse de bambou que je te prépare ton anniversaire. C'est demain, dit la mère du jeune garçon. Oh ouais, chouette, un repas de fête. Et Tarot alla dans le fourré de bambou derrière chez lui. Tarot chercha une belle pousse. Une pousse jeune qui n'avait pas encore percé le sol. « Oh, tiens, en voilà une !» se dit-il en commençant à creuser. Et bientôt, il fut en nage. Aussi enleva-t-il sa veste qu'il posa sur un bambou tout à côté. Mais le bambou fit une poussée vigoureuse. « Oh !» fit Tarot en se précipitant pour récupérer sa veste. Il grimpa sans plus attendre le long de la pousse qui de nouveau se mit à pousser et pousser. Tarot grimpait et le bambou poussait à toute allure. Et alors Tarot grimpait et le bambou poussait sans arrêt. Tarot se trouva bien vite en haut. La mère de Tarot, qui attendait le retour de son fils depuis un bon bout de temps, décida d'aller dans le fourré de bambou le chercher. Tarot ! Ouh ! Tarot ! Pas de réponse. Elle se mit à s'inquiéter. Tiens, sont les sandales de Tarot ? Et là, c'est ça où ? Tarot ? Tarot ! Maman ! Tarot ! Maman ! Oh ! Au secours ! Au secours ! Cria la mère. Tante et oncle se précipitèrent. Tous les villageois illico accoururent. Tarot ! Tarot ! Oui ! « Nous allons abattre la pousse du bambou, alors tiens-toi bien accroché, d'accord ?» cria le père. Et tous se démenèrent à qui mieux mieux. Tout là-haut, Tarot n'en menait pas large. Au bout d'un moment, le bambou fut enfin sectionné. Et dans un bruit terrible, la grosse pousse s'abat. Parmi les arbres de tant de forêts, des monts et des vallées, des montagnes et des plaines, le bambou tombe. Et les yeux fermés, Tarot s'accroche à la pousse. Il y va de sa vie. Le vent siffle à ses oreilles, mais pourtant Tarot ne lâche pas prise. Et enfin, un craquement énorme, loin derrière. Et puis, plus rien. Voilà toute la famille qui court à perdre haleine. Ils courent à travers les monts, les vallées, les montagnes et les plaines. Et finalement, ils arrivent auprès de Tarot, complètement assommé, allongé sur une plage. Tarot, mon fils, vite, de l'eau, apportez-lui de l'eau, cria le père. Et Tarot, aspergé, revient à lui. Chacun pleure, mais chacun pleure de joie. Et au milieu de tous ces pleurs, Tarot dit « Oh là là, oh que c'est salé, maman, tu ne pourrais pas pleurer un petit peu plus loin, tes larmes sont vraiment trop salées. » « Mais ce n'est pas mes larmes, c'est l'eau de la mare. »« L'eau de la mare ? Vraiment ?» Tarot, son père, sa mère, les parents, les voisins, tous goûtent l'eau. « Oh, elle est vraiment salée, hein ?»« Pas de doute, c'est la mer. » »« Mais alors, il y a des poissons ? » Il y a peut-être des coquillages et des algues. Dit la mère de Tarot. Elle avait bien raison, mon arrière-grand-mère, qui disait « Au-delà des montagnes et des collines, il y a la mer. » Et moi, c'est mon arrière-grand-père qui disait « Au-delà des montagnes et des collines, il y a la mer. » Dit le père de Tarot. Et on y trouve des poissons, des algues et des coquillages. La mer, depuis plus de 100 ans, personne n'y venait plus. On avait tous peur de se perdre en chemin. Et c'est quoi un coquillage ? Oui, mais c'est quoi des algues ? Ça se mange, les poissons ? Pour sûr que ça se mange, et c'est peut-être meilleur que les pousses de bambou, dit la mère de Tarot. Et bientôt, les voilà tous à pêcher avec des cannes vides bricolées. À la fin de la journée, chargés de poissons, d'algues et de coquillages, ils s'en retournent à leur village. Ils avaient tous un long chemin à faire. À travers les plaines, les montagnes, les vallées et les monts. Et pourtant, personne ne s'égara, même au plus fort de la nuit. Non, il suffisait de marcher le long de la pousse du bambou abattu. Le lendemain, ils se réunirent tous pour fêter l'anniversaire de Taro. Et il y avait non seulement des pousses de bambou, mais aussi des poissons et des coquillages de toutes sortes. Ah, ce fut une fête mémorable. Et même si un des oncles de Taro manqua de s'étrangler avec une arête de poisson, et si un autre de ses oncles eut presque une indigestion. Ah mais oui, ce fut un anniversaire absolument merveilleux. De ce jour, les villageois prirent souvent le chemin de la mer. Ah, il suffisait de suivre le bambou magique. Et ce fut une bonne chose. Ce petit village perdu dans les montagnes devint prospère et ses villageois purent y vivre longtemps, très heureux.
Tout compte fait.
Au sommet. Cette histoire se passe au Japon. La sécheresse était grande cet été-là à Osaka. Une grenouille qui vivait dans un fossé se dit « Partons à Kyoto. Là-bas, au moins, la ville est belle, le paysage vallonné et il y a de l'eau. » À la même époque, la sécheresse sévissait aussi à Kyoto. Quelle misère pour une grenouille qui vivait au bord de la rivière. Celle-ci se dit oh, « Partons à Osaka, c'est un port, et là-bas, il y a la mer !» Les deux grenouilles partirent le lendemain matin à la même heure toutes les deux et se rencontrèrent à mi-chemin en haut d'une montagne qu'elles avaient bien eu du mal à gravir. Étonnées de cette rencontre, elles se racontèrent la raison de leur voyage et s'étonnèrent de la coïncidence qui les amenait là. Au moment de reprendre la route, chacune voulut voir le chemin qui lui restait à parcourir. Alors elles se mirent à enfler, et leurs yeux, bien placés à l'arrière de leur tête, grossirent. La grenouille de Kyoto aperçut au loin Kyoto. Celle d'Osaka regarda vers l'horizon Osaka. Et au même moment, elles coassèrent de colère. Osaka ressemble terriblement à Kyoto, hein. Oui, et Kyoto est vraiment pareil à Osaka, hein. Pouf, à quoi bon un tel voyage alors ? Déçues, elles s'adressèrent quelques politesses, puis chacune d'elles repartit d'où elle était venue. Flora est morte de rire et me laisse donc toute seule pour la conclusion. Merci beaucoup.
Mais non.
Mais si.
Mais non, je vais
le dire. Mais si, bien en plus de dire.
Mais oui, je vais le dire.
Où peut-on nous retrouver en podcast, Flora ?
Sur radio-g.fr, bien évidemment.
Le site internet de Radio G.
Ben voilà, comme d'habitude.
Comme d'habitude. Et donc, on se retrouve dans 15 jours. On sera donc le
2 décembre.
Le jeudi 2 décembre. Et on vous fait une émission autour de quoi, cette fois-ci ?
On vous racontera des contes autour des arbres.
Voilà, on avait envie de parler d'arbres. Donc, l'émission du 2 décembre sera autour des arbres. Why not ? Eh bien, sur ce, on vous souhaite une bonne journée. Flora est encore morte de rire. C'est bien, ça fait plaisir. Et on vous dit...